J'avais écrit un long texte que j'ai raccourci pour les nécessités de la soirée, ce qui fait qu'il y a des raccourcis partout et des développements qui manquent. Bon, alors, actualité de la névrose, c'est le titre de l'année. Cette question interroge ce qui peut changer et ce qui ne peut pas changer dans la névrose, certes, mais elle engage la question plus générale de ce qui détermine ce que nous appelons les structures cliniques, les trois canoniques, névrose, psychose, perversion. Sur la première question, nous savons de ce qui peut changer. Nous savons que les sujets, en tant qu'apparolés au discours, lien social, changent. Il y a des subjectivités d'époque, comme disait Lacan, et il nous faut bien les rejoindre si nous voulons en faire des sujets de la psychanalyse. Car ces subjectivités d'époque sont les sujets de la conscience, les sujets au sens pré-analytique du terme. Alors, nous postulons avec Freud et Lacan, dans la psychanalyse, que ces sujets ont un inconscient qui les divise du fait qu'ils parlent. Et ça, ça ne peut pas changer. C'est le premier point. Sur la deuxième question, pourquoi disons-nous structure au lieu de type clinique ? Structure, c'est le mot lacanien pour penser l'inconscient et ses effets. Et nous importons dans le champ des types cliniques connus le terme de structure venu d'ailleurs, venu de la méthode structurale empruntée à l'anthropologie de Lévi-Strauss, de la linguistique de Saussure-Jacobson, c'est connu, et que Lacan a appliqué au langage et au parlant. Structure clinique dit donc par conséquent plus que type clinique. Le type clinique, au fond, c'est un portrait que l'on peut décrire, fantasme, symptôme, etc. etc. Et au fond, structure postule, structure clinique postule un rapport spécifique de chaque type aux structures qui déterminent les êtres parlants. Ne cherchons donc pas à expliquer la spécificité des structures cliniques par l'universel de la structure, c'est-à-dire ce qui s'applique à tout parlant qui a un inconscient. Demandons-nous au contraire d'où proviennent les variations qui font les différences des structures cliniques. La leçon que je tire de Lacan, parce qu'il y a une telle masse de textes et de formules, la leçon unique que je tire de Lacan, c'est qu'une structure clinique, c'est l'incidence du sujet réel de l'option donc d'un sujet agent, ce qu'il a d'abord appelé la chose à un moment, son incidence dans la structure universelle du parlant. Alors pour dire ça, on dit parfois option subjective, mais option subjective c'est trop vague. Je crois que Didier Gray dans son exposé avait approché quelque chose comme ça. Alors, quelle est l'option de la chose névrotique? Je ne parle pas pour l'instant de distinction, hystérie, obsession. Lacan a pris sur ce point la suite de Freud, pour qui les types cliniques sont des modes de rapport aux objets de la libido. Tous les textes canoniques sur la névrose le disent. On a chez Lacan de grands morceaux de bravoure sur la névrose. Beaucoup, nombreux, avec des séries de formules frappantes. Et toutes font de la névrose une position sujet qui privilégie la dimension du désir comme défense dans l'approche du sexué, on pourrait dire du réel du sexué. Alors, on a évoqué déjà beaucoup de formules au cours de l'année. Hein. La névrose est une question, on peut développer plus tard la question de la névrose, c'est la réponse. Et puis, dans la période médiane, qui correspond à peu près au grand texte des écrits, c'est une façon, la névrose, de soutenir le désir. Plus précisément, de le soutenir comme question. Et c'est le contraire de soutenir la jouissance. Car quand le désir vient à être déterminé par un objet, avec le névrosé, il n'y a plus personne pour consentir à ce que Lacan a dit avec différentes expressions, mais en particulier consentir au fading du sujet devant l'objet et consentir à son être d'objet. Alors c'est angoisse, dérobade hystérique, annulation obsessionnelle. Dans tous les cas, une position du sujet qui est de défense à l'endroit de l'approche, de la jouissance. Voyez tout le vocabulaire de l'option que Lacan a employé pour parler des névrosés. Refus du fading du sujet, il aurait pu dire de la destitution subjective. Hein. Refus de donner sa castration, puis lâcheté du névrosé. Il regarde son fantasme à la lorgnette. Puis la grève du corps de l'hystérie et le mariage de l'obsessionnel avec le regard de la mort. Alors, on peut se demander, bien sûr, à la fin, si avec la promotion de l'inconscient réel ou de la jouissance du parler, ça change quelque chose à la définition de la névrose, à ce qu'est une névrose. Je n'entre pas dans la question, je crois qu'on peut démontrer que non. Mais c'est une autre question. Alors tout cela est passionnant, n'est-ce pas? Ça fait de la névrose une réponse aux effets de la structure du parlant, mais ça laisse en suspens complètement la question de l'incidence sur la névrose de ce qui change dans le monde. C'est la question posée par notre titre. Ma thèse, c'est que l'ordre du discours ne change pas les structures cliniques, mais favorise plus ou moins telle ou telle des options que sont les structures cliniques. Ça change donc ce qui s'observe dans le monde, mais pas dans la psychanalyse même. Et je crois au fond que mon hypothèse là-dessus, que je ne développe pas pour des raisons de temps, c'est que dans l'ordre du discours actuel, le discours actuel ne favorise pas la névrose, avec pour résultat que l'hystérie se masque, tandis que l'obsessionnel est quand même plus à l'aise pour des raisons qu'on pourrait développer. Bon, je saute. Alors, plutôt que de demander comment le discours de l'époque agit sur les structures, prenons la chose à l'envers, sur une autre face, et demandons-nous quelle est la fonction sociale des structures cliniques. Il faut bien qu'elles en aient une, puisqu'il y a eu des sociétés, par exemple, qui ont attribué un rôle tout distingué à la folie. C'est pas le cas de la nôtre, hein. Lacan a été interrogé en 1966. Par un public d'étudiants en philosophie sur la fonction sociale de la maladie mentale. J'attire votre attention sur ce texte. Sa réponse est époustouflante à mes yeux, surprenante au premier abord et imparable une fois qu'on l'a dépliée. Il part pour répondre, fonction sociale de la maladie mentale, il part du schizophrène, passe à la névrose, puis à la psychanalyse elle-même. Selon Lacan, il faut avoir fréquenté le schizophrène pour mesurer ce qu'est la fonction de son ironie. C'est l'arme, dit-il, qu'il porte à la racine de toute relation sociale. Et nous savons que cette racine, c'est la chaîne langagière, n'est-ce pas ? Je souligne qu'ici, ce n'est pas la paranoïa qui est convoquée comme maladie mentale, et aussi que ce texte est de 66, donc Lacan n'avait pas encore construit la structure des quatre discours. Il emploie « relation sociale », notion plus vague, plus large aussi, qui tient la place de lien social. Donc l'ironie du schizophrène dénonce, attaque et dénonce quoi ? L'artifice, voire la possibilité même du lien social. Et Lacan passe immédiatement à la névrose. Et il dit « la névrose manque, est en défaut donc, à cette fonction de la corrosion ironique. Le névrosé, privilégiant le rapport de désir, l'hystérique spécialement, est en fait une sorte de militant des relations sociales, sous la bannière de l'amour et du désir. La névrose en vient des relations sociales. On l'a évoqué la dernière fois, c'est une formule de Lacan, elle les sustente. Certes, l'hystérie interpelle le discours du maître, mais pour faire valoir une autre relation sociale d'amour et de désir qui passe par la parole. Elle en est même l'héroïne et la militante. Et en ce sens, Lacan dit, l'ironie y fait défaut. Mais, heureusement, toujours selon Lacan, Freud a restitué la fonction d'ironie que la névrose, qui manquait à la névrose. Et ça équivaut, dit-il, à la guérison de la névrose. Comment Freud restitue la fonction d'ironie ? Il la restitue pour autant qu'en écoutant les amoureuses, comme Lacan les appelle jusqu'à la fin à répétition, en écoutant les amoureuses, il a su recueillir Freud le savoir, d'où résultent justement les corps prolétaires, qui ne sont pas dans le lien social. Et voilà qui restaure l'ironie. Et qui contre donc le je n'en veux rien savoir propre à la névrose du réel peu socialisant des corps sexués. Alors qu'une analyse le lui fasse savoir équivaudrait donc à la guérison de la névrose. Mais c'est pas fini, Lacan ajoute que la psychanalyse a pris la succession de la névrose. C'est dire qu'elle en hérite. En fait, on n'y aurait pas pensé, enfin, j'y aurais pas pensé. Mais en effet, la psychanalyse inaugure une relation sociale qui, commençant avec l'amour de transfert, est fondée sur le lien du désir au désir. C'est du béaba lacanien. Et donc, la psychanalyse, dans son lien, réalise ce dont rêve l'hystérie avec son identification au manque. Elle en relaye donc les rêves, les espoirs, le « je n'en veux rien savoir » en soutenant le transfert. Et aussi avec ses promesses implicites d'arranger le lien sexuel du conjugal homme-femme, toujours latent dans la psychanalyse. Par là donc, Lacan dit, la psychanalyse manque à la fonction de l'ironie, comme la névrose. Alors, faudrait-il dire, moins de névrose, pas à cause du capitalisme, mais parce que la psychanalyse a pris le relais, et que le refuge contre le malaise Eh bien, c'est peut-être devenu un lieu de culture de la névrose. Mais voilà la chute du développement de Lacan. Il dit, la psychanalyse manque à sa fonction d'ironie, mais je la restitue, tout comme Freud l'a fait. Il la restaure, que Lacan restaure la fonction de l'ironie, ça se comprend mieux à partir de l'écriture des discours, puisque tous sont des discours de la jouissance qui ne fait pas rapport, même celui de la psychanalyse. Et alors, toutes les expressions que nous utilisons maintenant, favorites, corps prolétaire, identification aux symptômes, épars des assorties, Yadlin, rien d'autre que des unarités, sont autant de formules qui, comme l'ironie du schizophrène, ciblent ce qui, de manquer à toutes les relations sociales, les corrode, à savoir une jouissance qui ferait rapport de corps. Hors de là, dit Lacan, hors de ses élaborations à lui, hors de l'ironie qu'il restaure, le seul élément d'ironie qui reste dans la psychanalyse actuelle, on est en 66 quand il dit ça, et on peut dire qu'elle n'était pas encore assez lacanienne pour qu'on n'y dénie pas le dire de Freud, le seul dire de Freud. Eh bien, le seul élément d'ironie qui reste, dit-il, c'est qu'on la paye. C'est qu'on paye. En effet, c'est très ironique de payer le lien analytique quand on sait que ni la relation d'amour, ni la relation de désir, chère aux névrosés, ne se payent. Alors que signifie cet apparent éloge de l'ironie ? Ce n'est pas pour faire l'ironie du schizophrène, à qui d'ailleurs son ironie est imposée, mais parce que cette ironie met en relief le vice qui est à la racine des relations sociales, à savoir que tout se fabrique par le lien des signifiants sans parvenir à faire le lien des corps de jouissance. Et donc, c'est pour dire, avec... un terme, vous le remarquerez, il parle à des étudiants en philosophie, Lacan, et il sait toujours à qui il parle, avec un terme qui est du vocabulaire commun et que tout le monde peut comprendre, c'est une façon de dire que Freud, comme Lacan, tâche de travailler contre le « n'en rien vouloir savoir » propre à la névrose. « N'en rien vouloir savoir » déguise du réel qui se font jour dans l'expérience. Et c'est ce qui permet de dire que le discours de la psychanalyse ironique, celle de Freud et de Lacan, les psychanalyses ironiques, guérissent la névrose, peuvent guérir la névrose, en réduisant sa veine dénégation. Il faudrait plutôt, donc, on devrait pouvoir conclure qu'une psychanalyse guérit ou peut guérir un analysant de ses options, pas de son inconscient, mais de son option névrotique. À charge sans doute pour les guéris en question, s'il y en a, de travailler un lien social qui serait fondé non sur des illusions, mais sur ses bases réelles. Voilà.